François Gagnon, considère-toi comme salué.
Salué.
Ben, vous aussi, Marc et Paul.
François, dis-moi, il y a un auditeur qui nous écrivait tout à l'heure pour savoir si, d'un coup, qu'il consomme du cannabis, est-ce que ses primes d'assurance vie vont augmenter? Parce que c'est le cas pour la cigarette. Il faut que tu te déclares à ton assureur si tu fumes la cigarette. Il va te charger plus cher, je sais pas trop quoi, là. Ou si tu ne déclares pas puis il se rend compte que tu fumais, ben, t'es pas assurable. C'est-tu la même affaire pour la marijuana?
Non, pas du tout. Sur le site de l'Anglois Avocat, je t'allais vérifier justement parce que j'écoutais parler, là, puis y a bien des choses qui vont changer dans le domaine de l'assurance, là, mais dans l'assurance vie, un fumeur de cannabis ne sera pas considéré comme un fumeur au même titre que la cigarette. Sauf qu'on va regarder la fréquence avec laquelle il va fumer. C'est ça qui va déterminer s'il y aura augmentation ou pas dans le prix de l'assurance vie. En tout cas, du moins, c'est l'interprétation que j'ai pu voir sur le site de ce cabinet d'avocats. Par contre, il y a bien des choses qui vont changer, là. Chez nous, ici au Québec, il n'y aura pas de ce problème-là là, pour la culture du cannabis, là, parce que ça va être illégal ici au Québec. Donc, il n'y aura pas de problème. Dans les autres provinces où il y aura la culture légale, ça va venir changer l'assurance habitation. Ça va venir changer également l'assurance automobile. Pourquoi? Parce que ici, c'est tolérance zéro. Du moment que tu as un peu de THC dans le sang et que tu as conduit, tu es coupable. Alors donc, ça va venir entacher justement l'assurance automobile et surtout l'assuré, parce qu'il va avoir peut-être un peu de misère après, parce qu'il va être considéré comme coupable. Donc, ce sera un acte criminel. Pour l'assurance maladie maintenant, il y a quelques assureurs qui commencent déjà pour le cannabis médical à rembourser les frais de cannabis médicaux. Alors ça va être de ce côté-là. Et pour l'assurance vie, ben, il n'y aura pas grand changement. Alors, bien sûr, la meilleure façon de pouvoir le faire, si vous êtes un consommateur de cannabis et que vous désirez en consommer de façon légale, je le dis bien, d'ici mercredi c'est illégal, mais à partir de mercredi ça le sera, vous devrez peut-être contacter vos assureurs et vous demander et leur demander qu'est-ce que ça va changer comme implication dans vos assurances habitation, vie et également automobile.
OK. Oui, ça répond à ma question.
Ben oui,
non, mais c'est bien intéressant, puis ça tombe bien parce que nos auditeurs nous posaient la question tantôt. Autre réponse que tu vas donner à des auditeurs, cette fois, c'est concernant le sujet de la semaine passée sur les testaments. Ça a eu beaucoup d'écho et plusieurs personnes qui t'ont écrit. Comme vous pouvez le faire d'ailleurs à chaque semaine, vous pouvez écrire à François, à son adresse courriel, François Gagnon. C'est quoi l'adresse?
François.Gagnon. François.Gagnon@98.5fm.ca.
C'est beau. On voit-tu que je l'avais pas sous les yeux? Mais c'est ça. Il y a des gens qui t'ont écrit concernant les testaments, des histoires assez rocambolesques même des fois.
Oui. Puis des bonnes questions en plus. Là. J'en ai gardé que deux là parce que ça reflétait un peu l'ensemble des questions qui m'ont été posées. La première a été posée par Christine. Elle dit « Je suis mariée, j'ai un testament, mon mari n'en a pas et nous n'avons pas d'enfants. » Il arrive un accident où les deux décèdent. Qu'est-ce qui arrive? Nous avons une maison qui a une hypothèque. Merci. Là, c'est la boîte de Pandore qu'on vient d'ouvrir. Là. Dans le sens où, normalement, faut établir l'ordre des décès pour éviter la double imposition. Imagine-toi là que madame, elle a des REER. C'est elle qui décède en premier, donc cède ses biens à monsieur.
Ouais.
Normalement, les REER devraient être imposés parce que c'est considéré avoir été donc retiré au moment du décès. Sauf que dans son cas, comme ils sont mariés, on aurait pu le rouler facilement à monsieur, mais monsieur a pas de testament, ça s'en va à qui? Donc on a toute la recherche que je vous ai expliquée la semaine passée jusqu'à 8 générations antérieures pour être capable de faire la distribution. Mais c'est un méchant problème parce que là faut faire homologuer le tout et ça coûte extrêmement cher. Alors la meilleur conseil que je pourrais donner à madame, et là je l'ai pris sur le site de l'assureur Sun Life, ça serait d'aller voir son notaire et de faire rédiger un testament, sinon au moins avoir un testament holographe pour être capable de savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce que dans des cas de décès simultané, c'est extrêmement rare, sauf qu'il y a tout le temps des clauses qui vont jusqu'à 30 jours. J'ai vérifié le mien ce matin, là, mon testament, puis là, il y a justement une clause de décès, parce qu'on peut tout prévoir dans un testament, une clause de décès simultané. Et là, il y a la clause des 7 jours, c'est-à-dire que faut que je survive au moins 7 jours pour qu'il y ait tous les transferts.
Okay.
Alors, faites affaire avec votre notaire et ce sera extrêmement important de vérifier également s'il y a une clause de décès simultané à l'intérieur de votre testament pour savoir régler le problème.
Et l'autre histoire, François, parce que le temps film est très important, parce que, ouais, mais des histoires de chicanes de famille là, pour des affaires de testament, il y en a une puis une autre. On en connaît toutes. Et là, l'histoire, si tu permets que je la raconte un peu, là, une dame qui t'écrit et qui dit, bon, mon père est décédé, beaucoup d'argent, il s'est remarié et il a eu trois enfants. Deux enfants de la première union, elle fait partie de cette première union-là, et un enfant de la dernière union. Et là, son frère, qui est donc l'aîné de la première union, on va dire ça comme ça, devait être exécuteur testamentaire. Finalement, ils se sont fait tasser par l'épouse du père qui est décédé, donc de sa plus récente union. Et là, ben l'épouse en question veut pas leur montrer le testament. Pourtant, ils sont inscrits ses papiers. Son frère a eu le temps de lire le début du testament. Il a vu que c'était écrit, mais il s'est les fait enlever des mains. Écoute, c'est assez rocambolesque cette affaire-là. Là.
Non, c'est l'enfer. Ils disent souvent que une personne révèle sa vraie personnalité après le décès d'un proche.
C'est peut-être ce qui est en train de se passer.
Il y a de l'argent en jeu. Alors, à ce moment-là, la chicane de famille est en train de prendre strictement parce qu'il y a beaucoup d'argent, justement, en jeu. Bon, probablement que la belle-mère veut garder les sous et ne veut pas le distribuer aux enfants. Bon, ceci étant dit, il y a des procédures, il y en a au moins deux. La première chose que Annie Gélina devrait faire, parce que c'est elle qui nous a écrit, devrait aller consulter si elle connaît le nom du notaire qui a rédigé l'acte testamentaire, devrait aller le consulter et demander conseil auprès de cette personne-là. Il y a deux choses qui peuvent se passer. D'abord, il existe maintenant, parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances de droit à l'intérieur de tout ça, si effectivement, dans l'acte testamentaire, on a vu que c'était le plus vieux, effectivement, qui est inscrit comme exécuteur testamentaire. Normalement, on ne doit pas, à moins que la madame conteste justement cette décision-là de monsieur, devant les tribunaux, devrait normalement donc prévaloir, et c'est le nom du jeune homme qui devrait être l'exécuteur testamentaire. Sauf que, parce qu'on connaît pas le droit, les gens se lancent dans des procédures parfois qui sont extrêmement onéreuses, vont en cours, ils vont se battre en cours. Mais il existe quand même ce qu'on appelle la médiation successorale. Alors, devant notaire, il y aura une personne tierce qui sera neutre et qui conseillera donc les deux personnes. Ça coûte à peu près entre 250 et 300 $ et ça va éviter donc un procès qui risque d'être onéreux, coûteux. Et demander à son notaire également si effectivement il serait possible d'obtenir une copie de l'acte notarié du testament, et si oui, ben là ils pourront procéder ensuite et voir selon les conseils de leur notaire qu'est-ce qui pourrait se faire exactement.
Okay.
Alors, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner, là. Il y a pas d'autre chose, parce que là, quand tu t'embarques dans des chicanes de famille, là, c'est interminable.
Oh, oui.
Et pour ceux qui, pour la petite histoire, là, je vous invite à aller lire l'histoire des Steinberg. Vous allez voir que l'art de scraper une entreprise là, pour une question de succession, là, c'est l'enfer.
Puis c'est fou, parce qu'on dirait que plus il y a d'argent en jeu, plus tous les coups bas sont permis. Là.
Ben oui.
Non, c'est clair.
Okay. François, en passant, tu me dois encore 20$. Hein? Juste,
Comment ça?
Ben, non, on parle de cash puis de chicane. En tout cas,
OK.
Si tu me le remets,
mes conseils sont... Pourtant, mes conseils sont gratuits.
Oui. Conseil pro bono de François Gagnon, chroniqueur économique pour Cogeco. Merci, François.
Ça fait plaisir.
OK, bye-bye, on s'en parle la semaine prochaine.
Il reste mal.
Même poste.
Je dois tout 20$.
Marc a une mémoire terminée.
Non, mais c'est même pas vrai.
Ben, c'est sûr que c'est pas vrai.